Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et donc ce matin, j'étais dans mon lit, comme d'habitude. C'est pas étonnant. Et j'étais inspiré par une blague. Donc c'est toujours dangereux de dire une blague. Et peut-être que c'est une blague qui a déjà inspiré d'autres, parce qu'à mon avis, ce n'est pas très originel. Mais je pense à un homme, et il va dans un resto. Et cet homme, il arrive dans le resto et il commande un bon steak frites salade. Et quand son steak arrive, il commence à couper, mais ça ne coupe pas. Et il dit, voilà, c'est horrible. Ce steak-là, c'est vraiment comme du caillou. Elle dit, mais ici, on a 2 étoiles Michelin. Il faut être anglais pour penser comme ça, non? Parce que moi, quand je pense 2 étoiles Michelin, je pense aux pneus. Mais quand on est vraiment français, on pense à la bonne nourriture. Et donc... Ça, c'est l'enjeu de ce matin, parce que qu'est-ce qui fait? D'un côté, il y a tous ces bons restos où on peut vraiment manger bien. On peut vraiment manger bien. Je faisais mon enquête ce matin, j'ai demandé aux gens qui venaient au culte, j'ai dit, est-ce que vous avez jamais mangé dans un restaurant Michelin, avec une étoile Michelin? Et il n'y avait personne qui a dit oui. Mais je cherche toujours, peut-être les gens qui ont travaillé pour des boîtes ou qui... Mais moi, je n'ai jamais mangé dans un resto Michelin. Mais quand même, j'ai lu le Paris Match. Et le Paris Match, dernièrement, ça parlait de M. Yannick Alléna. Qui connaît Yannick Alléna? C'est un grand chef étoilé. Et ce chef étoilé, il a un resto à Paris qui s'appelle Le Doyen. Si jamais vous voulez y aller, cet après-midi, un petit aller-retour à Paris pour midi. Et ce M. Yannick Alléna, il vient d'être accordé 3 étoiles. C'est quand même le rêve, quand on a 3 étoiles. Et donc, ça doit être vraiment du caoutchouc chez lui, mais bon, ça va. Mais il a dit ceci, être un chef étoilé, c'est un défi quotidien. Et moi, j'aimerais ajouter, être un chrétien étoilé, c'est un défi quotidien. Un défi quotidien. Gardez nos étoiles. Gardons nos étoiles. Et après, on parlait à ce monsieur Yannick Alléna, mais quels sont vos secrets? Et bien sûr, il dit, voilà, il faut personnaliser, il faut être atypique, c'est dans la sauce, c'est toutes ces choses-là. Mais il a dit une chose, c'est que l'essentiel, il faut garder le goût essentiel de la nourriture. Il faut garder le goût originel. Il faut garder l'essentiel. Il ne faut pas trafiquer trop. Il faut avoir l'essentiel dans l'assiette. Et pourquoi on va aller dans un bon resto étoilé? C'est pour manger, à mon avis, la bonne nourriture. Il y a les gastronomes, les gens qui aiment bien la bonne nourriture. Bon, peut-être c'est pour frimer aussi quelquefois, mais bon, voilà, c'est pour bien manger. Et je dirais c'est pour chercher l'excellence de la nourriture, n'est-ce pas? L'excellence de la nourriture. On veut vraiment savourer. Ça vous donne envie, non? Imaginez. Savourer. Donc juste une petite lecture de deux versets dans le psaume 34. Psaume 34, verset 9. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Qu'est-ce que? Santé. Et donc, goûtez et santé. Oh, c'est mieux même. C'est encore plus gastronomique là. C'est parce que Jésus, on pensait toujours écouter. Voilà, écouter. Voilà, quelqu'un qui prêche. Voilà, là. Mais goûter, non, on a goûté là, goûter et sentez, voyez, combien l'Éternel est bon. Et après verset 5, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Et le visage n'a pas à rougir. Alléluia. On a un Dieu qui est bon. Et on a un Dieu, il faut vraiment garder nos étoiles. Mais nos étoiles, il faut garder les étoiles de notre relation personnelle avec lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Malheureusement, quelquefois, on a un petit goût amer dans notre relation avec le Seigneur. Et il y a des choses difficiles qui arrivent, où on ajoute trop de sauce, on ajoute trop de choses, et on perd la simplicité de cette relation essentielle. Pour avoir trois étoiles, il faut faire sortir le goût essentiel. Et là, Paul, il disait la même chose. Allez, on va voir notre texte pour aujourd'hui. Philippiens. Paul qui écrivait aux Philippiens. Et vous savez, dans l'église à l'époque, là, en Turquie, à Philippi, il y avait un problème parce qu'il y a les gens qui disaient « Moi, je suis mieux que lui parce que moi, j'ai fait ceci, moi, je suis telle race, moi, je suis meilleur, moi, je suis circoncis et donc je suis mieux que les non-circoncis. Et si tu veux être chrétien, tu dois être circoncis. » Parce que quand même, la foi vient des Juifs et tout ça. Et donc, il faut avoir tout ça et tout ça et tout ça. On ajoutait. Et à un moment donné, c'était des conflits. On perdait la simplicité d'une relation personnelle avec Jésus. Et donc, Paul, à un moment, il dit, voilà, je vais donner mon témoignage. Et donc, quand Paul donne son témoignage, c'est impressionnant. Et lui, il dit, voilà, je garde mes étoiles. Bon, il ne dit pas ça, je garde mes étoiles. Mais il dit, moi, je suis un chrétien 3 étoiles. Et pourquoi il est un chrétien 3 étoiles? C'est parce qu'il dit ceci en Philippiens, verset 3, chapitre 3 et verset 8. Il dit, et donc Philippiens, chapitre 3, verset 8, « Et même, je considère tout comme une perte » à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. Amen. L'excellence de la connaissance. Il ne dit pas la médiocrité de ma connaissance. Il dit l'excellence de ma connaissance de Jésus-Christ. Et quand je lis ça, j'ai envie. J'ai envie. Je dis, oh, mais Seigneur, je complique ma vie tellement. J'ai perdu mes étoiles parce qu'il y a, voilà, quelle date le retour de Jésus et telle chose. Et des bonnes choses. Et moi, après la mission, voilà la mission, combien de peuples non atteints dans le monde, tout ça. C'est des choses importantes. Mais finalement, Paul, il dit, mais pour moi, l'essentiel, c'est cette excellence de l'intimité, de la connaissance, de mon bien-aimé, Jésus-Christ. Il y a des églises où l'important c'est de porter un chapeau ou de ne pas porter un chapeau pour les femmes. Et après de porter, je ne sais pas si on a une boucle d'oreille ici et, ou ne pas ici, ou, je ne sais pas. Et quelquefois on a des divisions, des scandales à cause de ça. Il y a un tas de lois quelquefois qui s'imposent et il y a d'autres où il faut absolument parler en langue. Oh, si on ne parle pas en langue et il y a les dons du Saint-Esprit. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Moi je ne suis pas en train de critiquer. Que chacun garde leurs avis sur toutes sortes de choses. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Et après il continue, il dit... À cause de lui, à cause de cette personne de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Alors là, c'est pour avoir des étoiles, hein. Pour avoir des étoiles, être un chef, c'est un défi quotidien. Et je pense que pour Paul, il y avait un défi chaque jour. Il acceptait de perdre des choses pour maintenir la fraîcheur de sa relation avec Jésus-Christ. J'ai accepté de tout perdre et je considère tout. Et après, il dit un gros mot, hein. C'est le seul gros mot dans le Nouveau Testament. Il parle des ordures et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. C'est énorme ça. C'est énorme de parler de toutes ces choses comme des ordures comparées à l'excellence, à la priorité de Christ. Et donc, quelles étaient les ordures de Paul? Est-ce qu'on peut dire, oh, il était drogué, il avait fait ça dans son passé, c'était terrible, et donc j'ai perdu tout ça parce que j'étais un voleur, j'ai tué des gens, j'étais dans l'immoralité, tout ça. Non, 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 qu'est-ce qu'il dit? Quelles étaient les ordures de Paul? C'est choquant, hein? Après, il dit, voilà, verset 5. « Circoncis l'huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je considère comme une perte, des ordures. » Donc là encore, c'est choquant, non, quand il parle comme ça. Parce que, irréprochable, voilà ma vie de moralité. J'ai pas péché comme les autres, j'ai pas péché comme tel et tel. Moi, je suis fidèle. Il dit pas ça, la priorité, d'être gentil, quoi. Il dit pas ça, même s'il est gentil. Et c'est important, bien sûr. Paul, il exagère, mais c'est important. Mais c'est pas l'essentiel. Et après, il circoncit. Ah, circoncis. Le rituel. Je suis sauvé par ma tradition d'église. Je suis sauvé par les rituels de mon église. Je suis sauvé par le rituel de la circoncision si je suis juif. Il est circoncis de la race d'Israël, tribu de Benjamin. Ah, ma famille, quelle belle famille là. On a été catholiques, juifs, protestantes depuis 5 générations. Hein? C'est automatique, non? C'est dans mon ADN que j'ai une relation avec Christ. Mais Paul, il dit, voilà, toutes ces choses-là, c'est moi. Mais tout ça, il dit, j'étais pharisien. Je ne sais pas, il montait en grade, pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas. Mais ce n'était pas même sa profession. Ce n'était pas sa vie chrétienne qui comptait. Quant aux zèles, zélé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi j'ai été vachement zélé dans ma jeunesse pour Horizon, missionnaire. J'ai implanté des églises, j'ai créé le Château Blanc et Bourg-Saint-Andéo. Et combien de personnes? Et il y a Vision 50. Et les groupes triplés, et le groupe Contact. Bien sûr, le zèle, il faut être zélé. C'est pas forcément mauvais. Pas forcément moi, mais comme Israël, on a fait Israël, et Israël, oh, l'unité, l'unité, et on a tous, on est zélés pour des choses, mais finalement, Paul dit, pour lui, tout son passé, tout ce qu'il aurait pu dire, ça c'est super, il dit c'est rien comparé à l'excellence de la connaissance de Jésus. Est-ce que Paul, il est en train d'exagérer ici? Il n'est pas en train de dire ces choses. Il dit, c'est tellement beau d'élever Jésus. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il ne voulait pas créer l'idolâtrie de ses œuvres. Il ne voulait pas faire l'idolâtrie d'autre chose que Christ. Il voulait dire que Christ reste la chose centrale, certaine, qu'on ne peut pas changer ça. Mais il y a toujours un danger pour nous des hommes, parce qu'on veut fabriquer nos vaches d'or. On veut toujours fabriquer. Moi, je vais parler de ma vache sacrée. Hein. J'étais en Inde. Et en Inde, vous êtes là en train de rouler sur l'autoroute, hein, parce que l'Inde se développe à une vitesse. Autour de Delhi, vous avez des autoroutes. Et vous roulez vite sur l'autoroute et tout d'un coup, il y a une vache. Ou il y a 3 vaches qui sont là, plantées, au milieu de l'autoroute. Et tout le monde doit s'arrêter. Et tu n'as pas le droit de les tuer. Tu vois, les vaches, ils entrent dans ta maison. Ils entrent dans ta maison et c'est magnifique. Ils se promènent partout et tu fais rien. Les singes, c'est la même chose pour les singes. Tous les animaux, on ne les tue pas. Et donc là, on n'a pas le droit de tuer les vaches sacrées. Ma vache sacrée, c'était la mission. Voilà, la mission, missionnaire. C'est une bonne chose, bien sûr. Je veux évangéliser les nations. Je veux faire ça pour le Seigneur. Mais si, subtilement, ça peut prendre la première place. Ah non, je perds mon étoile là. Je perds mon étoile. Et je sais qu'on aime Israël dans notre église. Mais si Israël perd, si on est tellement Israël, Israël, qu'on perd l'excellence. Je ne dis pas qu'on le fait, mais on perd l'excellence, la connaissance de Christ. Aussi pour l'unité, aussi pour d'autres choses, qui est mon truc. C'est bien, mais que Christ soit vraiment central. Que Christ soit central. L'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Parce que si Paul, d'un côté, avec son CV, waouh, waouh, parlait hébreu d'hébreu, il avait toutes les langues, mais il dit, mais pour moi, tout ça, j'avais rien, finalement. Ça comptait pour rien pour moi. Parce que pour moi, l'essentiel, c'était d'aimer Jésus-Christ, d'avoir cette relation avec lui dans mon cœur, chaque jour d'être aux pieds de Jésus, comme on a chanté dans ce chant, d'être là dans l'intimité, d'être renouvelé. Et bien sûr, j'espère que la mission et toutes ces autres choses vont suivre, mais ils doivent suivre. Que le zèle pour nos œuvres, pour le zèle pour nos théories, pour nos idéologies, ne domine pas la réalité de notre adoration pour Jésus-Christ. Alléluia. Et après, c'est 2015, hein, mes deux autres messages, c'était comment réussir en 2015, qu'est-ce qu'on va faire en 2015. Et je vous donne encore un but, hein, un but pour 2015. C'est déjà entamé, hein, mais il reste 11 mois. Qu'est-ce qu'on va faire en 2015? Voilà, toujours dans chapitre 3. Frère, verset 13. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Je n'ai pas encore arrivé. Et personne n'est encore arrivé. Ça, c'est bien. Il y a encore du chemin à faire. On va gagner nos étoiles. On est à peut-être une étoile, deux étoiles, deux et demi. On aura trois étoiles. Père, Fils, Saint-Esprit dans le ciel. Mais bon. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. On peut faire 10 000 choses dans une église. D'accord? On peut faire 10 000 choses. Mais il ne faut pas faire 10 000 choses. Il faut faire une chose ensemble. Il faut être unis dans une chose. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Paul, après toute son expérience, il est un vieillard quand il écrit ceci. Il est un vieillard. Et il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, voilà ce but, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste. Je veux mes étoiles de Dieu en Christ Jésus. Et donc verset 10, ça explique ce but. Très clairement, ce prix, cette vocation céleste. Verset 10, mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre des morts. Et donc, dans sa personne, son but était de voir crucifier toute cette vie charnelle, tout son péché, de voir que quand Christ est mort sur la croix, lui, il était en Christ. Toutes ces choses charnelles, même les bonnes choses qui n'étaient pas vraiment en Christ, toutes les choses qui nous handicapent, toutes nos vaches sacrées, toutes les choses, voilà. On est toujours content de crucifier une mauvaise chose. Mais je dirais toute chose qui a une place avant Jésus-Christ. Voilà, ça doit aller à la croix. Quelque fois, il nous le redonne après. Il nous le redonne dans la résurrection après. Mais il y a un seul nom donné pour être sauvé. Et ce nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre éducation chrétienne, ce n'est pas notre droiture de vie, ce n'est rien de tout ça, ce n'est pas nos qualifications, ce n'est pas même d'être pasteur, ce n'est rien de tout ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est quand Christ se révèle à ton cœur. C'est une relation personnelle avec Jésus. Là où je peux dire j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas cette vie ancienne que j'avais, mais c'est une nouveauté de vie. Il y a une nouvelle personne. Je retrouve qui je suis vraiment en Christ. Et c'est vrai, il y a une communion de ses souffrances, mais ce qui m'intrigue dans ce but, je cours vers l'avant, c'est de, je veux connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Parce que quand vous connaissez Jésus-Christ, vous ne connaissez pas un homme mort, d'accord? Vous ne connaissez pas un crucifié. Vous connaissez quelqu'un qui est ressuscité, vivant, qui est vivant aujourd'hui, voilà, le 8 février. Il est vivant. Et il nous parle, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui compatisse à vos souffrances, qui a aussi une puissance pour vous faire sortir de votre trou. C'est possible, quelquefois il nous garde, on reste dans le trou pour grandir, tout est possible. Mais Dieu est puissant, à quoi bon être, on ne vient pas pour un enterrement tous les dimanches. On n'est pas là pour perpétuer une sorte de rituel de deuil. Pauvre Jésus, il est mort. On est là pour dire, il est ressuscité et il vit dans mon cœur et je le connais. Je suis fiancé à lui. Je suis en train de le connaître. Je me prépare pour ma destinée. C'est pour être l'épouse de Christ. Là. Je me prépare pour une lune de miel éternelle. Donc, on échange les billets doux. Il me parle. Je fais connaissance avec lui. Je vais voir son père. Je vais voir la belle-mère du Saint-Esprit. Mais on est là en train de cultiver une relation qui grandit. L'excellence de la connaissance de Jésus. C'est ça mon but. Et comme il dit, oublions ce qui est en arrière. Allez, je ne veux pas être handicapé. Quelque chose toujours qui m'empêche d'avancer, oubliant ce qui est en arrière. Ça, c'est une parole ce matin. Allez, on va oublier ce qui est en arrière. Oh, mais c'est trop dur. Mais allez, vas-y. Faut combien de temps pour oublier? Combien de temps? On ne va jamais oublier, finalement. On ne va jamais oublier, mais on peut être guéri. Je ne pensais pas littéralement oublier, voilà, lobotomie, je ne connais plus rien. Non, ce n'est pas ça. C'est de ne plus être retenu par le passé. Ne plus être retenu par des erreurs. Ah, j'ai vraiment fauté dans le passé. D'accord, mais vous pouvez être pardonné. Dieu peut tout restaurer. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Il faut avoir un avenir aussi. Qu'est-ce qui est devant vous? Une chose qui est devant vous, c'est cette excellence de la connaissance de Jésus. Cette semaine devant vous, il y a une excellence de connaissance qui vous attend. De vivre l'aventure de connaître Christ. Et je veux le connaître et le faire connaître. Quand Christ est en vous, vous êtes tout sauf passif. Quand vous avez cette connaissance de l'excellence de Christ en vous, il y a comme une explosion et vous avez envie de partager ça autour de vous. C'est naturel. On est tellement possédé par cette intimité, par cet amour de Jésus, que ça coule de la source. Ça coule de la source. On partage ça aisément avec les gens. Qu'est-ce qui est devant vous? Je cours vers le but. Allez, c'est que Jean-Luc, il aime courir. J'ai un partenaire dans la course. Courir. Mais pas juste avec nos jambes, mais avec la prière, la lecture de la Bible, cultivant notre relation avec Jésus. Mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de la résurrection. Et donc je veux terminer avec une histoire de Marie-Madeleine. J'aime beaucoup Marie-Madeleine. Je pense que... Oui, je préfère Marie-Madeleine de l'apôtre Paul, si je vous demandais mes préférences de personnages bibliques. Elle a un rang très élevé pour moi, Marie-Madeleine. Parce qu'elle est vraiment une des premières apôtres, finalement. Même si on ne la compte pas, c'est dans l'histoire de l'Église, l'apôtre. C'est elle qui est la première à voir Jésus-Christ ressuscité. Et il faut voir, hein, vous pouvez voir les textes et tout ça. C'est elle qui a eu la première révélation. Et Paul, il oublie de la citer en 1 Corinthiens 15. Je suis un peu choqué, hein, parce qu'il parle de tous ceux qui ont vu le Seigneur. Il parle de Pierre. Il dit c'est Pierre, parce qu'on voulait que ça soit un homme le chef. Mais finalement, la première, avant Pierre, c'était Marie-Madeleine. Hein, on l'a oublié. C'est comme l'Église a souvent oublié la femme. Hein, pardonne-nous. Hein, l'Église pendant toute l'histoire. Mais là, j'ai encore 5 heures pour enseigner. Je vais vous donner des cours bibliques, si vous voulez. Là, comment Jésus libère la femme. Hein, c'est incroyable. Mais bon, Philippiens. Non, pardon, Jean. Jean 20. Et à partir... Bon, on peut voir que le début du chapitre, qui est là en train de veiller, c'est Marie-Madeleine. Premier jour de la semaine, elle va au tombeau. Et il fait encore nuit, il faisait encore obscur. Et elle vit que le Pierre est enlevé. Et donc elle va dire, Pierre, elle va voir. Elle trouve Simon-Pierre et Jean et dit, voilà, quelque chose se passe au tombeau. Et donc les deux gars, ils courent au tombeau. Ils courent, voilà. Et après, ils aiment beaucoup courir parce que je pense que c'est Jean qui dit qu'ils courent plus vite que Pierre et tout ça. Ils sont en concurrence un peu. Mais après, ils regardent dans le tombeau et verset 10, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc ils n'ont pas pris le temps vraiment pour contempler et tout ça. Ils ont regardé, ils sont partis. Mais qui est resté fidèle au tombeau, même sans avoir des réponses? Elle était là, c'était Marie-Madeleine. Je vais vous dire que c'est souvent les femmes les plus fidèles que les hommes. Les hommes, ils retournent souvent chez eux, et ce sont souvent des femmes qui restent là, même sans rien comprendre. Même je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais être fidèle. Je ne sais pas ce qui se passe. Les hommes cherchent une explication tout le temps. Et donc les gens, ils sont allés, Pierre est allé faire la pêche de nouveau. Les autres étaient sur le chemin d'Emmaüs, loin de Jérusalem. Mais Marie-Madeleine, elle est restée. Verset 11. C'est, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Cependant, Marie se tenait d'or près du tombeau et pleurait. Ça, c'est aussi une position de l'humanité et de beaucoup de femmes aussi. Souvent, les femmes qui pleurent, qui prient, qui portent, qui payent. Et là, elles payent. Comme beaucoup, vous connaissez les larmes. Je pense que chaque personne dans sa vie connaît des larmes. Elle pleurait. Parce qu'elle n'avait pas encore cette excellence de la connaissance. Elle était là. Elle avait le tombeau. Elle avait la mort. C'est, on n'a pas besoin d'évangéliser les gens pour dire un jour tu vas mourir, un jour tu vas être mal, un jour c'est pénible la vie. Bon, ça c'est évident. Mais et donc elle pleure, elle sait toutes ces choses. Est-ce qu'il y a une solution? Elle pleure, elle regarde dans le tombeau, elle pleure. Mais après elle voit deux anges. Et si vous persévérez avec Jésus, il vous donne un regard spirituel sur les choses. Il vous donne un regard spirituel. Je ne dis pas que vous allez voir deux anges, mais vous allez voir des choses autrement. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le matériel. Il y a les gens en France qui ne vivent que pour le matériel. J'étais à table avec quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, je ne vis que pour le matériel. Je ne crois pas en Dieu, rien, je n'ai pas le temps, c'est que le matériel qui compte pour moi. Et j'ai dit, mais c'est triste quand même. C'est triste d'avoir que le matériel. Parce que j'ai dit, un jour, vous allez mourir, un jour, il y aura des grandes questions. J'ai parlé de mon enfant Marc, qui a 19 ans, a brisé sa nuque, et qui a été à l'hôpital, et le médecin a dit, s'il tousse, il peut mourir. Et je dis, à ce moment-là, c'est que le matériel. Je dis, on est obligé, on cherche quelque chose au-delà de ce tombeau. Mais je dirais, si vous persévérez dans une démarche de chercher Jésus, il va vous donner un paradigme spirituel. L'homme a besoin de ça. On ne peut pas survivre sans ça. Même créer une relation d'amour avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas que matériel. Voilà, moi je prends, toi Jane, moi Tarzan, boum. Et il y a Jane, Tarzan et Dieu, voilà. pas le singe. Vous gardez le singe vous-même. Hein. Je ne sais pas si c'était prophétique. Et donc, et après, elle pense voir un jardinier. Et quelquefois, Jésus, il se déguise. Ce n'est pas évident de voir Jésus, voilà, il arrive, voilà. Ah oui, je connais Jésus. C'est dur de connaître Jésus. Quelquefois, il est avec nous dans les circonstances de vie comme un jardinier. Et là, il pense que c'est rigolo, finalement. Jésus, il connaît tout, il est ressuscité. Il aime beaucoup Marie, et là, elle pense que c'est le jardinier. Et il dit à Marie, il pose une bonne question. Peut-être il vous pose la même question ce matin. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et moi, je peux écrire 5 lignes, 10 lignes, une lettre, un roman. Je vais te dire pourquoi je pleure. Pourquoi pleures-tu? C'est bien de lui dire. Dis à Jésus pourquoi tu pleures. Ça va te vider. Ça va te faire du bien. Dis-lui. Il ne faut pas râler. Mais dis-lui, pourquoi pleures-tu? Et après, elle dit, voilà... Tu sais, quelqu'un a enlevé mon Seigneur. Et il est un peu absent, Jésus. Quelquefois, Jésus semble être absent. Verset 15. Femme, pourquoi pleures-tu? Et après, elle dit, si c'est toi qui l'as piqué, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Tu vois, tu imagines, elle parle à Jésus ressuscité, et c'est pas que c'est Jésus. Mais il dit, moi je vais faire quelque chose moi-même pour trouver une solution. Je vais moi-même chercher. Et ça, souvent, on veut trouver une... On ne peut pas trouver une solution de la mort. Ce n'est pas nous, on n'a pas des ressources. Même si elle dit, oh je vais faire quelque chose. Et il faut quelque chose d'extraordinaire maintenant qui se passe. Elle dit, oh je vais chercher Jésus avec mes propres moyens. Je suis quand même hébreu, j'ai quand même... C'est Jésus et la flûte dans l'église, j'étais dans la chorale, il y a ma grand-mère qui a allumé 5 bougies, et je peux quand même faire quelque chose. Peut-être, mais je ne pense pas. Il y a une seule chose qui va tout changer. Il y a une seule chose qui est la solution. Il y a une seule chose, c'est l'excellence de la connaissance. Et elle va vivre un moment incroyable, elle va vivre une explosion. Et je vous souhaite de vivre cette explosion maintenant. Parce que tout d'un coup, Jésus se dévoile. Il n'est plus le jardinier. Il n'est plus le crucifié. Il n'est plus juste loin. Il se dévoile. Comment est-ce qu'il se dévoile? Il appelle Marie par son nom. Il dit Marie. Verset 16. Jésus lui dit Marie. Ah, c'est plus qu'un mot. Bon, excusez mon français maintenant, je vais vous choquer. Mais tu sais, Marie-Madeleine... Son passé. C'est juste pour la prédication. Il ne dit pas pute. Il ne dit pas pute. Il ne dit pas tu es nul. Il aurait pu, hein. C'est parce qu'elle a dû entendre ça beaucoup dans sa vie. Son identité, forgée par son péché, forgée par ses erreurs. Forgée. Je ne sais pas quelle identité vous portez. Est-ce que vous avez une identité forgée par d'autres? Forgée par votre passé, vos erreurs? Ah, échec, nul, étranger, tu vois, pas comme ton frère, pas comme ta soeur. Mais Jésus là, Marie, waouh, je te connais, comme tu dois être. Comme je t'ai créé, comme je t'aime, Marie, une relation personnelle. Quand tu entends Jésus dire ton nom, moi j'ai entendu Jésus. Est-ce que c'est une voix audible? Non, mais je l'ai entendu dans mon cœur, Robert. Et même ce matin, j'ai entendu Robert. Robert, c'est tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Tu sais, il y a un chanteur qui s'appelle Seal. C'est un chanteur nigérien. Il a fait un magnifique chant en anglais. Et dans ce chant, il dit, l'amour peut te faire connaître ton vrai nom. Tu vois, l'amour peut te faire connaître ton vrai nom. Et c'est ce qui se passe pour Marie. Toute sa vie, elle porte une fausse nom, fausse identité. Jésus a dû la guérir. Mais il nous guérit par une relation personnelle, l'excellence de la connaissance de Jésus. Et pas juste une fois, mais tout le long de notre vie, on doit persévérer pour entendre, pour maintenir cette relation où Dieu nous appelle par notre nom. Didier, Monique, Sylvie, chacun de nous, Marie, tout est guéri. Pourquoi pleures-tu? Ah, j'ai fait toute une liste. Marie, elle laisse sa liste, voilà. Elle laisse sa liste. Ah, mais est-ce que tu es pour le millénium ou pas le millénium ou et parler en langue et dans l'église et porter un chapeau et tout. Marie, allez, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Après, vous choisissez votre voie. Ça, c'est le chemin. Mais Marie, mais il y a une réponse. Elle se retourne et lui dit en hébreu, ça c'est votre parole à Jésus, Rabouni. Ah, j'aime bien ça. On prie ça pas assez dans l'église. Rabouni, maître. Mais c'est cette notion de papa maître. Abouni, c'est un peu papa, Abba. Rabouni, rabbi, teacher, enseignant. Rabbi, Rabouni, mais Rabouni, c'est l'enseignant papa. Celui qui te prend. C'est pas juste la théorie, c'est la relation. Rabouni. C'est aussi celui qui plie le genou et dit maître. Allez, maître, tu prends le contrôle de ma vie. Ça, c'est plus dur. Rabouni. Rabouni. C'est pas la soumission de l'islam, hein. C'est un livre connu en ce moment, soumission. Mais c'est pas cette soumission, mais c'est cette soumission comme une femme, voilà, la soumission de la lune de miel, magnifique. Je soumets. C'est une soumission de plaisir, c'est une soumission de confiance. C'est pas une soumission d'écrasement. Moi, je ne prêcherai jamais cette soumission-là. C'est pas la soumission de notre Dieu. Mais Jésus, quand il parle à Marie, Marie, elle sait qu'elle est aimée. Elle sait qu'elle est guérie. Elle sait qu'elle est restaurée. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et après, il dit, Rabouni, tout est changé. Donc, si vous oubliez tout le reste, Marie, Rabouni, cultivez cette relation de soumission à votre bien-aimé Jésus-Christ. À ses pieds, soumis, l'épouse soumise pour l'éternité, mais remplie éternellement de victoire, d'amour et de joie. Et ça commence déjà, pas parfaitement. On a des moments d'oubli. On va se coltiner d'autres identités. Hein, c'est possible, mais chaque jour, avoir 3 étoiles, c'est un travail quotidien. Avoir cette relation d'intimité, c'est un travail de chaque jour. Et après, à la fin de l'histoire, verset 18, au verset 17, bon, 17, il faut imaginer Marie, elle veut le prendre, Jésus, elle veut le toucher, elle prend ses chevilles. Jésus, il dit, oh mais, lâche-moi, je ne suis pas encore, je vais aller au ciel. Mais j'aime beaucoup ça. Tu vois, elle est une femme de Moyen-Orient. T'imagines. Tout d'un coup. C'est son culte personnel est passionné. Tu vois. C'est passionné, son culte personnel. Moi, je veux vivre des cultes personnels comme ça. Allez, je ne veux pas te lâcher, Jésus. Je veux connaître la puissance de la résurrection. Et après, verset 17, il dit, mais ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Va vers mes frères, je veux le connaître pour le faire connaître. Va vers mes frères, mais il ne dit pas va vers mes frères sans intimité. C'est ça l'erreur de l'Église, quand c'est une obligation d'aller vers nos frères, le zèle, voilà, je fais ça, je fais ceci. Même toutes nos théories, ça c'est les ordures, s'il n'y a pas l'excellence de la connaissance. Ma mission, ce n'est que des ordures, s'il n'y a pas l'intimité qui précède. S'il n'y a pas la qualité d'une relation avec Jésus, toutes mes théories sur toutes choses, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ comme un fondement de toutes choses. va vers mes frères, dis-leur. Et après, verset 18, Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples. Voilà, c'est ça le premier apôtre. C'est elle qui a enseigné, même les disciples. Oh, les femmes ne doivent pas enseigner dans l'église. D'accord ? Marie-Madeleine, mandatée par Jésus, d'annoncer aux disciples. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous faites avec ça, Paul ? Mais bon, ça va, il y a un débat, je suis d'accord. Mais quand même, le cœur de Jésus, il n'avait même pas dit, oh, mais Marie, tu sais, tu es une femme, tu n'as pas le droit d'enseigner. Elle a annoncé, et le mot là, c'est kérigme. Elle a vraiment eu une proclamation kérigmatique pour les disciples. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et partager les paroles de Jésus avec les disciples. Et donc, la semaine dernière, avec les Coréennes, j'ai parlé des trois M. Marie-Madeleine en mission. Et donc, je veux vous envoyer en mission cette semaine. Mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection, la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je vous le souhaite. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire Rabouni ce matin? Je vais laisser un petit moment de silence pour que vous puissiez entendre votre propre nom. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et donc, vous pouvez lui dire pourquoi vous êtes triste. Vous pouvez lui dire pourquoi tu n'es pas contente. Pourquoi tu n'es pas satisfaite. C'est bien de lui dire. Il veut entendre. Il ne veut pas juste, voilà, tout est bien, ça va. Mais on peut lui dire, pourquoi pleures-tu? Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire donc? Oh, mais je vais chercher, je vais faire ça. Je vais... Non, il dit, mais tu n'as pas la solution. Ce n'est pas là la solution. La solution, c'est de m'accueillir aujourd'hui dans ton cœur. Et après, il dit ton nom. Elle entend combien tu es aimé. Il dit ton nom ce matin. Voilà. Entends son nom. Entends le nom qu'il te donne. C'est l'amour qui me donne ma vraie identité. C'est cet amour de Jésus qui te donne ta vraie identité. Donc Seigneur, je sais que tu m'aimes, je reçois, j'entends que tu m'appelles ce matin par mon nom, tu me connais, tu connais l'essentiel de moi que tu aimes, pas ce moi qui est connu par les autres, pas ce nom que les gens m'ont collé à ma naissance ou au travers de mon travail, de toutes sortes de choses, mais le nom que tu me donnes Seigneur, mon identité en toi, je le reçois ce matin. Je le reçois, ce nom pur, ce nom rempli de possibilités, ce nom qui court vers le but. Je reçois ce nom ce matin. Et je te dis en retour, Rabouni, Rabouni, sois mon maître, sois mon papa maître, sois celui qui m'entoure de ses bras d'amour et qui me guide et qui m'enthousiasme et qui me donne un mandat d'annoncer tes paroles à mes frères et sœurs et à ma famille. Alors Seigneur, merci. Je veux mes trois étoiles, Seigneur. Et je sais que c'est un travail quotidien pour ça. Mais je veux mes trois étoiles de l'intimité. Je veux goûter et voir et sentir chaque jour combien tu es bon, Seigneur, pour moi. Au nom de Jésus.